Radioscopie, Jacques Chancel,
Pierre Schoenderfer.
Pierre Schoenderfer, un visage de proconsul romain, un proconsul qui serait né en Alsace, 40 ans, mais des années qui comptent double. Une belle lucidité, une grande franchise, du courage et surtout une qualité rare, la fidélité. Pardonnez-moi, Pierre Schoenderfer, de brosser votre portrait à grands coups de mots, mais ce sont des mots vrais que je pense et que je sais parce que je vous connais bien. Pierre Schoenderfer, vous avez fait la guerre et vous avez fait des films. La guerre, ce fut l'Indochine. Les films ont également pour cadre l'Indochine. Et, dans le fond, c'est la marque d'un homme marqué. On connaît votre 317e section, prix du meilleur scénario au Festival de Cannes en 1965, la section Anderson, réalisée pour la télévision et couronnée à Hollywood, deux fois d'ailleurs, prix Italia également. Aujourd'hui, Pierre Schoenderfer, vous entrez en littérature. Encore un mot vrai, parce que votre premier roman, L'Adieu au roi, n'est pas en effet seulement un livre. Il s'agit, et je le dis très sincèrement, d'une réussite littéraire. Alors, Pierre Schoenderfer, pourquoi ce changement d'option ?
C'est une question difficile. Je veux dire que ce n'est pas venu d'un seul coup, ce n'est pas un choix, n'était pas au départ un choix délibéré. Je voulais faire un scénario sur une histoire, un thème qui me courait dans la tête, qui était encore des réminiscences d'Indochine, si vous voulez. Et j'ai cherché à construire ce scénario, j'ai commencé à travailler dessus, j'arrivais pas. Il fallait que je passe par l'intermédiaire d'une sensibilité, il fallait que je construise mon histoire avec des mots, et je me suis tout à coup aperçu que j'écrivais un livre. Et à ce moment-là, je me suis donné tout à fait à écrire ce livre, je me suis offert un an de ma vie pour écrire ce livre.
Mais cette fois-ci, ce n'est pas l'Indochine, quoique l'Indochine transpire, c'est Bornéo.
C'est ça, oui. Non, je voulais faire une histoire, je voulais m'éloigner un petit peu de l'Indochine pour pouvoir, en fait, peut-être mieux la raconter, puis surtout plus...
Surtout, oui.
Pour m'éloigner, si vous voulez, m'éloigner et ne pas être seulement l'Indochine, revenir à l'Indochine, un documentaire sur l'Indochine encore. Non, je voulais avoir quelque chose de plus général, et je voulais aussi le situer dans une époque qui était... général, qui est un changement en Asie, le changement du monde en Asie, l'arrivée, l'irruption du XXe siècle en Asie, c'est-à-dire la fin de la guerre mondiale, un peu avant et un peu après Hiroshima.
Pourquoi ce changement de décor total ?
Il n'est pas total. Bornéo ressemble au plateau Moy qu'on connaît en Indochine.
Oui.
Et les Murids ou les Dayaks sont de la même race, ethnie, de la même ethnie que les Moy qu'on connaît bien. Alors, c'est donc pas tellement un changement de décor, c'est plutôt un changement de dimension. Je crois, si vous voulez, que l'adieu au roi, c'est une aggravation de la 317e section. C'est le même thème, mais pris avec un peu plus d'envergure, enfin, la recherche d'un peu plus d'envergure, et d'un peu plus de dimension, aussi bien dans les actes, dans les événements, que dans les personnages.
Dans le fond, c'est le long cheminement d'hommes qui vont vers la mort.
Oui, en se débattant dans la nuit, en cherchant la lumière. C'est un peu ça le thème général, qui était déjà le thème de la 317e section. C'est aussi la rencontre de deux personnages.
Oui, racontez-nous un peu votre livre.
Si vous voulez, au départ...
Le livre, d'ailleurs, sort aujourd'hui, je crois.
Enfin, il est sorti à Paris samedi, et je crois qu'il sort en province aujourd'hui ou demain. Le squelette de l'histoire, ce que je voulais faire au départ, c'était l'histoire d'un jeune sous-officier irlandais. J'ai choisi un irlandais parce que les Irlandais est un peuple de fous. C'est un peuple, et quand je dis fous, c'est admiratif. C'est-à-dire, c'est un peuple de dieux, si vous voulez. C'est des gens qui sont un peu excessifs. Un Irlandais qui, pour échapper à la captivité japonaise, s'enfonce dans la jungle. Et 4 ans plus tard, à Bornéo, quand les Anglais envoient un commando pour essayer de soulever la population contre les Japonais avant un débarquement, s'aperçoivent que cet Irlandais est devenu roi. Roi des tribus Muruts. Et les Anglais vont s'appuyer sur ce roi, vont à l'armée. Il a déjà une petite armée, ils vont l'équiper, encadrer cette armée. Ce roi va faire la guerre contre les Japonais. Et quand la guerre va cesser, après la bombe atomique d'Hiroshima, les Anglais et les Hollandais, qui partagent Bornéo, vont dire « Bon, maintenant, tout rentre dans l'ordre, il n'y a plus le royaume, et ceci est une colonie anglaise, et ceci est une colonie hollandaise. » Et le roi va dire non. Il a dit « Non, ça, c'est à moi, c'est à mon peuple. » Et il va se battre, il va rallier les derniers Japonais errants, perdus dans la jungle, et il va essayer de résister contre les Anglais. Les Anglais vont faire un blocus. Et petit à petit, c'est son peuple lui-même qui va le rejeter et le rendre aux Anglais.
Pour disparaître. Pourquoi Pierre Chandlerfer avez-vous fait de votre héros? Je crois que c'est Leroyd.
Leroyd, oui.
Un garçon qui, au départ, n'est pas tellement intelligent.
Bien, si vous voulez, je crois que c'est une des choses que la vie et la guerre, sans doute, m'a appris. C'est qu'on ne peut jamais juger les gens. Je n'oserais plus jamais dire de quelqu'un, celui-là est un imbécile, celui-là est quelqu'un que je ne veux pas voir, parce qu'on est toujours surpris. J'ai rencontré dans ma vie des gens pour lesquels je n'avais ni sympathie, ni intérêt. Et puis tout d'un coup, un jour, ils faisaient quelque chose que j'aurais été fier de faire. Alors, ça ébranle un petit peu la sur-certitude qu'on a de son jugement.
Pour vous, Pierre Chandlerfer, parler de la vie, parler plutôt de la mort, c'est parler de la vie.
Oui,
c'est la même chose.
Je pense que la mort, c'est l'objectif de la vie, si vous voulez. C'est ce qui est terrible, c'est que par la mort, en fait, on revient à la vie et c'est une espèce de cercle. Et certainement, c'est très important pour l'homme.
Vous êtes inspiré par Conrad?
Conrad, oui.
Quelles sont vos grandes lectures? Conrad, Malraux.
Oui, Malraux, Conrad. Conrad, encore plus, peut-être, parce que il y a... Non, actuellement, mes grandes lectures, si vous voulez, le plus grand écrivain que j'ai lu, c'est un livre de Bulgakov qui s'appelle Le Maître et la Marguerite. Alors là, c'est vraiment pour moi le génie. Et surtout que c'est un personnage, c'est un auteur absolument fantastique. Son livre est quelque chose d'absolument fantastique. Ceci dit, son livre ne m'a pas inspiré pour Je suis très loin de tout ça. Il ne m'a pas inspiré pour mon adieu au roi. Non, on verra plutôt Kipling, Conrad, sans doute.
Oui. Pierre Chandlerfer, ce n'est pas trop tard d'écrire à 40 ans.
Non, je crois pas. Je crois que
c'est le bon moment.
C'est un des bons moments, oui. Je crois que si on n'a pas le talent des lettres, le goût des lettres très très jeune, eh bien, je crois que c'est un bon moment parce qu'on a accumulé quand même derrière soi un poids de vie. Et ce poids de vie peut avoir un sens, peut intéresser les gens.
Bon, Pierre Chandlerfer, je rappelle donc que votre livre vient de sortir, L'Adieu au roi. Et bien entendu, je ne vais pas vous étonner en disant qu'on en parle beaucoup. On en parle beaucoup pour les prix. On dit qu'il n'y a pas de problème, il faut qu'il ait le Goncourt ou le Femina ou l'Interallié, car vous êtes journaliste. Alors, est-ce qu'on n'en parle pas un peu trop?
Ça, je ne sais pas. Écoutez, ça, ce n'est pas moi. Moi, j'ai écrit un livre. J'ai fait un livre, c'était mon travail. Et je l'ai remis à un éditeur. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe. Et je ne veux surtout pas le savoir, si vous voulez. Je ne veux pas m'enfoncer dans ça, dire je vais faire ci ou ça. Non, je ne veux rien faire. Moi, j'ai écrit un livre, c'est mon travail. Enfin, c'était le travail que je m'étais fixé. Et puis, c'est tout.
Pierre Chandlerfer, vous dites l'Indochine, vous ne dites pas le Vietnam.
Oui, ça, c'est une vieille habitude héritée de, héritée de la guerre d'Indochine. C'est vrai. On devrait dire le Vietnam, le Laos et le Cambodge quand on parle de l'Indochine, puisque c'est la réunion de ces trois États. On devrait même dire le Nord-Vietnam, le Sud-Vietnam, et ainsi de suite. Il y a trop de subtilité. Pour moi, l'Indochine, c'est l'image. D'ailleurs, ça existait. C'était étrange. C'était trois pays qui ne se ressemblaient pas, et quand même, ça existait. C'est fini, mais ça existait. C'était quelque chose.
Pierre Chandlerfer, nous avons campé le décor, si l'on peut dire. Vous êtes donc Pierre Chandlerfer, vous êtes cinéaste, deux œuvres à votre actif, la 317e section, la section Anderson, ensuite un livre, qui va paraître chez qui au fait?
Chez Grasset.
Qui paraît chez Grasset.
Oui.
Et nous allons parler maintenant de vous, parce que vous êtes un personnage très intéressant, et ça va être encore l'Indochine qu'on n'arrive pas à appeler Vietnam.
Oui.
Qui êtes-vous, Pierre Chandlerfer?
C'est difficile, que suis-je? Que suis-je? J'ai 40 ans, j'essaie de frayer mon chemin.
Vous avez commencé comment? Vous êtes alsacien?
Oui.
Jeunesse difficile?
Non, ça s'est très bien passé jusqu'à la guerre. On était à Richthofen, au cœur de la bataille de Richthofen, en 39, quand la guerre a déclaré. Alors on s'est replié. Bon, pendant la période d'occupation, c'était plus ou moins... Enfin, ça s'est bien passé. Mon père est mort en 45, des suites de la guerre d'ailleurs. Et puis j'ai continué avec ma mère et mes frères et sœurs. Et puis je n'étais pas spécialement... Je voulais faire l'école nationale de la marine marchande. Je n'étais pas spécialement brillant en classe parce que je préférais aller au cinéma. Et ayant échoué à l'examen, je me suis engagé dans la marine marchande. Comme il n'y avait pas de bateau français, je me suis engagé sur un bateau suédois. J'étais à Västervik, en Suède, je me suis embarqué sur le bateau, je suis resté 18 mois. Et puis, un soir, sur ce bateau, je me suis rendu compte que être marin, c'était pas ce que je rêvais. En fait, je pense que j'avais choisi la mer comme une fuite, si vous voulez, une fuite devant des tas de choses. Et Être marin, ce n'était pas exactement ce que je souhaitais. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas être musicien parce que je ne sais, connais aucun instrument de musique, je ne connais pas la musique, je ne peux pas être peintre parce que j'ai aucun don, je ne peux pas être sculpteur, je ne peux pas être écrivain parce que je ne sais pas écrire. J'ai envie de faire du cinéma parce que c'est ma culture, en fait, c'est ce que je connais. Et je suis rentré en France et j'ai cherché à faire du cinéma. Et puis, à cette époque-là, c'était avant la Nouvelle Vague, c'était dans les années 1949-50. Le cinéma était un peu le château de Kafka. On essayait d'entrer et puis, pour entrer, il fallait avoir une carte qui venait de l'intérieur. Pour aller avoir cette carte, il fallait être à l'intérieur, ainsi de suite. Il y a une espèce de cercle. Bon, alors je traînais, et puis je suis parti pour la Chine. D'une étrange manière, d'ailleurs, j'ai lu un article un jour de Serge Bromberger dans le Figaro, qui parlait de Koval, que vous avez bien connu,
Georges,
qui venait d'être tué au cours d'une bataille au Tonkin, et qui parlait aussi des autres, des cinéastes du service presse information, de Millet, de Pille, des photographes. Et j'ai dit, c'est exactement ce que je vais faire. Alors, j'ai téléphoné au journal, j'ai dit, je voulais parler à M. Bromberger. M. Bromberger n'était pas là, il était en Indochine. Et alors, j'ai demandé à la secrétaire, je lui ai dit, écoutez, voilà, j'ai lu un article, je voudrais faire ça. Alors, elle m'a dit, rappelez-moi. Elle m'a mis en contact avec les gens du service cinématographique des armées, avec un type, un commandant, il était un type très bien, qui s'appelait le commandant Michel Froisse, qui a vu, j'étais pas très, très fort en cinéma à cette époque-là, mais il a vu que j'avais été dévoré par la soif de faire quelque chose et aussi de partir et tout ça. Alors il m'a permis d'abord de faire un stage au SCA, ensuite d'aller en Indochine. Quand je suis arrivé d'ailleurs en Indochine, j'ai rencontré Serge Bromberger à qui j'ai raconté cette histoire. Et puis, 3 ou 4 jours plus tard, je partais en haute région en opération. Et 8 jours plus tard, un cinéaste disparaît et est considéré comme mort. Il s'agissait de Lorich, mais le nom n'avait pas été mentionné. Et Serge Bromberger s'est dit, ça y est, c'est ce petit garçon, ce jeune homme, qui a lu un de mes articles et qui est parti. Maintenant, il vient de mourir et j'en suis responsable. Il s'est dit tout à coup, mais c'est effroyable, on écrit quelque chose. Et ça a des répercussions effrayantes. Et puis, moi, j'étais toujours vivant, et 8 ou 10 jours plus tard, je suis rentré de cette opération, j'ai vu ça, j'ai vu Serge Bromberger, enfin, vous voyez.
Quels souvenirs conservez-vous de tout cela? Moi, je suis assez ému en vous écoutant, car je retrouve toute une période de notre jeunesse, malgré tout, car ce sont des noms qui chantent à mon oreille, car il faut le dire, nous sommes tous connus là-bas.
Exactement.
C'était, je crois, quand même une grande époque sur le plan des correspondants de guerre.
Ah, c'était, oui. Moi, je veux dire que à cette époque-là, j'étais un jeune garçon, si vous voulez, un jeune chien, C'était l'expérience la plus considérable que j'ai pu faire dans ma vie, si vous voulez. J'ai rencontré à la fois la guerre, ce qui implique des choses, qui implique le contact avec la mort, avec le danger, quand on a 20 ans, on essaie toujours de se juger, on essaie de savoir si on est courageux ou lâche, ce qui sont des mots, je veux dire, on croit que c'est quelque chose d'important.
Mais on n'aime pas la guerre.
À 40 ans, on s'aperçoit que tout ça, c'est autre chose. Mais enfin, non, on aime et on n'aime pas. On court dans tous les sens, on cherche à trouver... Mais à cette époque-là, pour moi, c'était formidable. Et certainement, ça m'a lesté d'un poids très lourd. Hein. C'est formidable et tragique, parce qu'en définitive, tout ça était inutile. Et nous le savions tous. Je dirais presque que le corps expéditionnaire le savait, si vous voulez, que tout ça était absurde. C'était
une aventure malheureuse.
Oui, c'était un malentendu et absurde. Mais une fois qu'on est enfoncé dans un malentendu, on continue à s'enfoncer.
Mais est-ce que c'était vraiment pour faire du cinéma que vous étiez parti pour l'Indochine?
Il y avait les deux. Le cinéma, certainement, était le moteur le plus important, et en tout cas celui que je mettais en devant. Hein, que je mettais en... Enfin, peut-être qu'il y avait aussi, là encore, un rêve de fuite, de partir, de voir autre chose, de me juger moi-même, hein, de voir ce que je valais par rapport à des événements considérables.
Hein. Vous êtes de ceux qui pensaient qu'on a mal jugé souvent les militaires qui se battaient là-bas.
Oui, je pense qu'on les a mal jugés parce qu'on les a jugés sur la guerre qu'ils faisaient. Eux, ils faisaient la guerre et cette guerre était une mauvaise guerre, il n'y a aucun doute. Mais ça ne veut pas dire que c'était des mauvais gens. Voilà, ça, c'est une autre chose. Or, pour simplification, très souvent, on a dit c'est une mauvaise guerre, donc ce sont des mauvais gens. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, j'ai rencontré des gens tout à fait exceptionnels. D'ailleurs, beaucoup qui ont commencé dans cette guerre ont changé. Après, ont suivi des itinéraires tout à fait différents et nous en connaissons beaucoup de nos camarades qui ont suivi d'autres voies. Non, je crois que La guerre était mauvaise, ça j'en suis sûr maintenant. Cette guerre était une tragédie, était une mauvaise guerre. Mais je crois aussi que les gens qui l'ont fait, il y avait du tout et il y avait des gens très bien.
Cette guerre, elle vous a formé, Pierre Chandaffaire.
Indiscutablement, oui.
Et j'étais... vous avez même fait.
Oui, oui, je crois, oui.
Vous en aviez besoin ? En tout cas,
je le pensais à l'époque, je ne sais pas si j'avais vraiment besoin, mais je le pensais à l'époque. Et je pense qu'actuellement, si je ne l'avais pas fait, je serais différent.
Pierre Chandaffaire, en Indochine, vous étiez de toutes les batailles, vous avez accompagné toutes les troupes, vous étiez dans tous les coups. Mais il y a eu un coup qui a été plus grave que les autres, ce fut Dien Bien Phu, car vous y étiez. Aujourd'hui, plusieurs années après, qu'est-ce que ça fait d'y penser ?
Ah, c'était d'abord quelque chose de tout à fait exceptionnel en Indochine, Dien Bien Phu. C'était une bataille rangée, c'était... Et la fin, c'était le désespoir, c'était... La fin avait des échos que je pouvais imaginer. Je devais faire un film dernièrement sur Verdun, qu'on pouvait imaginer à Verdun. Et pas pour les mêmes motifs. À Verdun, les Français défendaient leur sol. Là, nous ne défendions pas notre sol, mais acculés à la fin, tout à fait à la fin. Il y avait quand même une espèce d'élan. Je me rappelle, pour en revenir à cette vieille légion, je me rappelle la dernière contre-attaque qui était lancée par ce qui restait du 2e bataillon de parachutistes et du 1er bataillon de parachutistes étrangers. C'était assez extraordinaire. Alors oui, il y a un désespoir, une espèce de... Le désespoir donne des ailes, si vous voulez, aussi. Ça porte pendant un certain temps, le désespoir. Après ça, il y a eu la captivité, genre, c'est tout à fait autre chose.
Vous êtes resté prisonnier combien de temps ?
4 mois. 4 mois, c'est pas très long, mais c'était suffisant. Je suis bien content de ne pas rester plus longtemps. Vous voyez, mon ami Perrault, avec lequel... Qui est un des hommes à qui je dois beaucoup dans ma vie. J'en dois quelque chose à pas mal d'hommes comme ça, mais lui... Je lui rends beaucoup. C'était un photographe avec qui je faisais équipe. Il avait été déporté par les Allemands en 1943. Et juste après la chute de Dien Bien Phu, il m'a dit « Il ne faut jamais être prisonnier. Jamais. Et on va s'évader. » Et bon, moi, j'étais moins sûr que ça, si vous voulez, moins sûr que lui. Mais enfin, on s'est évadé ensemble. Moi, j'ai été repris. Lui a disparu. Et depuis, on ne sait pas ce qui est devenu.
On n'a toujours pas de nouvelles de Perrault.
Je pense qu'il est mort. J'en suis sûr, si vous voulez. Mais il avait raison, il ne faut pas être prisonnier. Je crois que c'est très malsain. C'est une horrible condition.
Vous avez souffert, la liberté.
Souffert, je veux dire, je ne veux pas du tout dire que c'est souffert par moi-même, si vous voulez. On ne m'a pas donné de coups, je n'ai pas eu assez à manger, comme tout le monde, mais c'est de ne pas être libre de voir, de dire ce qu'on veut, libre de penser vraiment comme on veut, parce que, en fait, quand on ne mange pas assez, si vous voulez, la dignité, le courage, et tout ça, c'est du pain dans l'estomac, hein, ou du riz dans l'estomac. Je crois que c'est une expérience absolument...
La liberté, c'est de ne pas être pris.
La liberté, c'est capital, oui. Vraiment, on ne le sait pas. Tant qu'on est libre, on ne s'en rend pas compte. Mais
ensuite, c'est quand même une prison particulière avec des gens qui ne sont pas tout à fait des Européens.
Oui, mais ce n'est pas ça, parce qu'en définitive, on avait même des sentimentalement, il y avait des choses qui nous attachaient dans ces petites sentinelles qui, au départ, étaient un peu furieuses. Parce que ça leur avait coûté cher, quand même, des Bien Phu. Et puis, on finissait par s'entendre avec eux. Moi, j'ai appris le vietnamien, presque. Enfin, je l'ai oublié depuis, mais j'ai parlé. Les Vietnamiens, ils nous donnaient quelquefois, ils arrangeaient des petits trucs. Non, c'est-à-dire, le côté humain, c'est pas ça. Les Vietnamiens, moi, qu'ils soient Vietmines ou autres, je veux dire... Non, c'est pas le fait que ce soit eux. Non, c'est le fait d'être prisonnier. Il faut pas... C'est très difficile à expliquer. Si vous voulez, je n'en parle jamais de ça. Et là, je me sens un peu acculé à en parler, puisque j'ai commencé. Mais je ne sais pas encore très bien, mais c'est quelque chose que... Il faut jamais être prisonnier, ça, c'est vrai. Perrault avait raison.
Pierre Chandaffaire, lorsque vous êtes parti, lorsque vous avez été libéré, vous avez vu quand même des visages qui étaient émouvants, qui étaient les visages de ceux qui vous laissaient partir, c'est-à-dire les Viet Minh.
Oui.
Et c'est quand même étonnant de voir cela.
Oui.
Comme quoi, il n'y a pas tellement de différence entre les hommes.
Non, je veux dire, je me rappelle les moments d'émotion avec le chef de camp. Sauf que ce chef de camp, qui parlait de l'autre côté, était un chef de camp très rigide et pardonnant pas les... Et sauf que ce chef de camp... était un hugolâtre. Il aimait Victor Hugo. Il connaissait des vers entiers de Victor Hugo. Il disait qu'il les avait appris en Chine. Moi, comme il avait suivi des cours au lycée d'Hanoï, je suis sûr que c'était au lycée d'Hanoï qu'il les avait appris. Enfin, il avait peut-être trouvé des livres aussi en Chine. Bref, on avait parlé de Victor Hugo et tout ça, entre autres. Et le jour, on est parti, il nous a accompagnés jusqu'à un certain point. Après ça, il regagnait l'intérieur. Et il y a eu un moment d'émotion, indiscutablement. En même temps, d'émotion et de... Et si vous voulez, de l'autre côté, nous, on fichait le camp, on était bien contents. Il y a eu des tas de camarades qui étaient morts de faim, morts de maladie. Il y avait eu la dysenterie, le paludisme, le désespoir qui avait tué presque la moitié des gens du camp, ce qui était quand même effroyable. Mais il y avait quand même ce type qui restait. Nous, on partait en disant on va aller bouffer du beefsteak, on va prendre des petits déjeuners fantastiques, ce qu'on n'a pas fait parce que l'estomac ne le supportait pas. Mais enfin, on rêvait, vous voyez, de choses parfaitement terre-à-terre et vulgaires. Et on savait qu'il y avait ce type qui restait derrière avec tout son pays à faire, un pays qui était mal construit puisque cette Indochine coupée en deux n'était pas tout à fait viable, si vous voulez. Ces gens-là n'avaient plus la bataille, la guerre et la... Pour se donner un moral, pour se donner de la gloire. Quand il n'était plus question d'aller attaquer une mitrailleuse dans un blocos, ce qui est quand même quelque chose de lyrique, non. Ils étaient maintenant obligés de se lever tous les matins, un peu plus tôt, pour cultiver un petit peu plus de rizière, planter un peu plus de riz, et essayer de vivre et d'organiser leur pays. C'était quand même assez impressionnant. Je veux dire, beaucoup de mes camarades prisonniers, moi-même, on a une espèce de petit moment d'émotion, quand même. Et pourtant, on était bien contents, vive la liberté.
Pierre Chandler-Fer, est-ce qu'à un certain moment, vous n'avez pas senti que vous pourriez être pris par la propagande marxiste?
Alors, je crois que elle est très séduisante et il y a des tas de choses qui me plaisent beaucoup, mais il se trouve que malheureusement, si vous voulez, dans un sens, je suis beaucoup trop individuel. Moi, je crois à l'individu, et je ne crois donc, je ne peux pas croire, en fait, c'est ça, je ne peux pas croire à la masse tout entière, si vous voulez. J'ai jamais participé à un mouvement de masse entier. J'ai eu quelques fois, si vous voyez, par exemple, dans un concert, on se sent tout d'un coup porté par toute la femme, la salle qui crie sa joie. Mais quand même, c'est pas pareil. Je suis trop individualiste pour... C'est peut-être un mal, je ne sais pas.
Pierre Chandler-Fer, pour nous, l'Indochine, c'est presque l'Indochine de papa.
Oui.
C'est aujourd'hui le Vietnam. Qu'est-ce qu'il devient, ce Vietnam? Quel est l'avenir?
Oh, ça, alors là, c'est difficile. Je veux dire, actuellement, ce qu'il est actuellement, il est un pays déchiré, en guerre, et moi, je ne connais qu'un côté. Je connais que le côté de Saigon, et que Saigon, c'est un endroit désespérant. C'est désespérant, Saigon. C'est désespérant, c'est ça. La société vietnamienne qui existait s'est détruite, c'est terrible. Moi, je trouve Saigon, je suis allé là, il y a quand même maintenant 3 ans, je trouve ça terrible. Ça me fait beaucoup de peine.
Pierre Chandler-Fer, nous avons vu ensemble l'autre soir, avec Lucien Bodard, Jean Lartégui, la vieille équipe, nous avons vu un film qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle Oabin. Oabin, ça veut dire la paix. Ce film est un film de Raoul Coutard. Je crois que tous, pour la première fois, nous avons senti autre chose au milieu de la guerre, car ce film, c'est l'histoire de deux enfants. Ces deux enfants sont abandonnés, la mère meurt, et le père a rejoint les rangs du Vietnam. Et on s'aperçoit tout d'un coup qu'il y a des enfants dont on ne s'occupe jamais. Je crois que ce sont là les grandes victimes de cette guerre.
Oui, moi je trouve que c'est un film admirable. Mais alors vraiment, je le dis, absolument admirable. Je l'ai vu déjà 2 fois et chaque fois ça m'a fait le même effet. C'est, si vous voulez, à côté, j'estime que la 317e section, c'est un jeu d'adultes. Et que ça, les adultes peuvent s'amuser.
C'est autre chose.
Ils sont responsables.
Puisque vous parlez de la 317e section, il faudrait peut-être dire, enfin les gens ont vu ce film, que dans votre film, ça n'est pas la guerre qui est en cause. C'est une colonne qui se promène.
Oui. Enfin, je veux dire que là, oui, c'est aussi la guerre, il y a des gens qui meurent, tout ça, mais ce sont des adultes et que les adultes peuvent faire ce qu'ils veulent. Je veux dire, ce sont des adultes. Là, ce qui est extraordinaire, c'est ces enfants qui sont abandonnés dans un espèce de tourbillon. On ne sait pas comment ils peuvent s'en sortir. Et en même temps, c'est fait avec une pudeur, une discrétion. C'est loin de faire du mélodrame là-dessus. Non, c'est d'une règle. Je trouve que c'est un film tout à fait admirable. Et je trouve aussi que ça donne pour la première fois une image de ce que pouvait être la vie à Saigon, ce que pouvait être la société vietnamienne, ce que pouvait être l'harmonie qui pouvait régner dans ce pays avant que que le vent de la guerre le balaye.
Non, c'est un film admirable, j'espère qu'il va bientôt sortir. C'est notre ami qui l'a fait.
Raoul Coutard, un autre ami, qui était également un photographe, et qui est devenu cinéaste, qui a fait tous les films de Godard, à peu près tous les films de Truffaut, et qui était avec vous aussi.
Ah, exactement, oui.
Dans le fond, on oublie
c'est
trop...
C'est moi qui lui ai fait faire son premier film, à Coutard. Et c'est une histoire qui est assez
amusante.
Ça s'appelle La Passe du Diable. C'est une histoire que tout ça, on le doit à Joseph Kessel.
Avec Kessel, voilà. Bien sûr.
Et c'est, on le doit à Joseph Kessel. Joseph Kessel, je l'avais rencontré à Hong Kong. En quittant l'Indochine, j'avais décidé de rentrer par les États-Unis. Et je me suis arrêté à Hong Kong et j'ai rencontré Kessel, qui était pour moi, c'est l'auteur de ma jeunesse, je veux dire, un des livres qui m'a le plus touché à un certain âge et qui me touche encore beaucoup maintenant, c'est Fortune Carrée. Ce que je trouve un livre merveilleux. Et j'ai rencontré donc Kessel, c'était fantastique. Et Kessel est un homme curieux, qui s'intéresse, qui écoute. Et j'ai passé une soirée entière, presque une nuit entière, à lui parler, à déverser un peu ce trop-plein d'indochine que j'avais. Ça l'a intéressé, il m'a dit, il faut qu'on s'envoie en France. Moi, je n'ai jamais osé le revoir. Et par hasard, je l'ai rencontré une fois sur les Champs-Élysées. Il m'a dit, je suis content de vous rencontrer, je pars en Afghanistan. Venez avec moi, prenez une caméra de 16 mm, j'ai un producteur, on va faire un film. Le producteur était Georges de Bourgard.
Qui film, a fait son chemin.
Le film qui devait être en 16 mm était devenu un film en 35 mm cinémascope et couleur. Et on cherchait un opérateur pour faire ça. Moi, j'avais Coutard qui était à ce moment-là en Indochine. Et j'ai dit, c'est l'homme le plus étonnant que je connaisse. Il faut absolument que ce soit lui qui fasse ça. Et Kessel a dit, bon, très bien, on va demander à ce que ça soit lui qui le fasse. Et j'ai envoyé un télégramme à Coutard qui, trois jours après, débarquait à Paris. Et c'est comme ça qu'il est devenu le chef opérateur de la Passe du Diable et ensuite de toute une série de films. C'est maintenant qu'il est devenu metteur en scène.
C'est très drôle, Pierre Chandler, faire ce que vous me dites là, car je n'aurais pas pensé à La Passe du Diable, mais au moment où vous mettiez en piste la passe du diable, j'avais été appelé pour dire le commentaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Vous voyez, on tourne en rond, toute la bande. Oui, on parlait des enfants tout à l'heure, Pierre Chandler. Si on fait des observations très strictes, on s'aperçoit que les Vietnamiens qui ont 30 ans aujourd'hui ne savent pas ce que c'est que la paix.
Oui, absolument. Oui.
Alors, on parle de la guerre, on parle du Viet Minh, on parle des Américains, on ne s'occupe pas des enfants. Oui.
Alors la guerre, vous comprenez, en plus, dans une société, c'est un espèce de rat qui ronge, qui détruit tout ce qui existe. Alors, il y a des choses qui peuvent être détruites, mais jamais, elles ne doivent jamais être détruites par la guerre. Si vous voulez, la guerre, c'est comme l'occupation, ça ronge un pays, c'est détestable.
À Saïgon, dans tout le Vietnam, puisqu'il faut l'appeler comme ça, il y avait des hommes qui ont fait leur chemin en France. Et c'est, je pense à Jean Lartigui, à Lucien Baudard, à Jean Hougron, à Max Clot. Est-ce que c'est pour vouloir les rejoindre, que vous avez écrit aujourd'hui votre livre « L'adieu au roi ».
Non, parce que ça serait un peu drôle d'essayer de les rejoindre. D'abord, je trouve que, si vous voulez, Baudard est un espèce de poète tragique de la guerre d'Indochine. Toute sa série sur l'Indochine est extraordinaire. Hein. Et puis, Lartigui était prophétique pour... dans sa description, si vous voulez, du corps militaire Et Claude, il a fait les papiers les plus sévères, les plus sérieux et les plus... Moi, je trouve parmi les papiers les plus sévères, les plus sérieux, les plus justes sur cette guerre. Non, c'est pas du tout pour leur courir.
Vous ne parlez pas de Jean Hougron, la sirène indochinoise.
Oui, mais non, c'est autre chose. Ça, c'est un grand romancier, Jean Hougron. J'aime beaucoup. Oui. Les Asiates, c'est un livre admirable.
Pierre Chandler, ce qu'il est difficile de manier les mots, c'est plus difficile que de manier les armes.
Une détente, c'est ça les armes. En fait, non, on croit que c'est ça. En fait, les armes, c'est aussi assez difficile à manier. Je veux dire, les manier intelligemment, mais il vaut mieux pas le savoir. Non, les mots, c'est très difficile. Moi, je ne m'étais pas fait pour écrire, si vous voulez, au départ. J'étais terrorisé par ça. Je ne pensais pas avoir les moyens d'écrire. Et pour moi, c'est un travail considérable. J'ai passé un an, vous voyez, sur l'Adieu au roi. J'avais passé 9 mois sur la 317e section. Et je peux dire que chacun des livres, je les ai écrits entre 6 ou 7 fois. C'est recommencer. C'est les mots qu'il faut. J'essayais, si vous voulez, un peu dans l'adieu au roi, de lui donner les dimensions d'un poème. Vous voyez, de trouver un espèce de lyrisme dans le... Comme quand on tourne un film, on a des mouvements de caméra qui appuient, qui augmentent, si vous voulez, le caractère de certaines scènes. Et c'est là, je voulais le trouver ça avec des mots, et c'est dur. Hein,
vous êtes aperçu que vous saviez écrire, c'est une découverte.
Oui, ça a été une découverte. C'est une découverte, mais ça, je l'avais fait avec la 317e section.
Voilà. Non, c'est-à-dire c'était autre chose, quand même. Oui, la 317e section, c'est devenu un film, oui, c'est devenu un livre après le film.
Non, avant. Ah, non,
avant le film.
Ah oui, j'ai écrit avant le livre, parce que c'était un scénario que je n'arrivais pas à passer, parce que personne n'en voulait, et je me suis trouvé un jour en me disant, je ne ferai jamais ce film, jamais. Alors, j'ai passé maintenant des mois et des mois là-dessus, j'ai réfléchi sur les personnages, j'ai des notes, je sais ce que je vais leur faire faire à chaque instant, et tout ça va disparaître. Et je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Alors j'ai essayé d'écrire un livre, et une fois, après avoir écrit 25 pages, vous voyez, 25 pages, c'est rien du tout, j'ai amené ça à quelques amis en leur disant, alors est-ce que je continue, ou est-ce que, dites-moi tout de suite, est-ce que je continue ou est-ce que je m'arrête? Et ils m'ont dit, continue. Alors voilà.
Si vous avez le prix Goncourt... Vous y pensez quand même
maintenant. Non, vous savez, je veux dire...
On a tellement dit que vous l'auriez...
Oui, mais oui, je veux dire, on a le livre, on a tort d'abord de le lire. C'est des gens qui ont à juger, ils jugent, ils savent très bien sur quels critères ils jugent. Et ceci ne me regarde pas. Non, il y a d'autres livres, vous savez. Non, je ne sais pas, on verra. Ça, c'est... Non, un prix, c'est agréable parce que c'est la liberté, vous voyez. Je veux dire, moi, je m'en suis aperçu avec... D'un côté, le prix que j'ai eu pour la 310e section, d'un autre côté, pour le prix de la section Anderson, c'est la liberté. Après ça, on peut faire encore un peu ce qu'on veut tout le temps. Un peu plus ce qu'on veut, si vous voulez. On est plus libre parce qu'on a les moyens d'attendre. Si la section Anderson n'avait pas eu le succès qu'elle a eu, eh bien, je n'aurais pas pu passer un an pour écrire un livre parce que j'ai quand même des gens à nourrir. Et on peut pas s'asseoir sur une chaise et écrire et c'est tout.
Bien, je vais leur faire, vous êtes marié.
Oui.
Pas de cheval.
Oui.
Vous avez des enfants?
Oui, trois.
Vous êtes un bon père?
Je ne sais pas. Je pense, oui, parce que je les aime.
Là où nous nous retrouvons, Pierre Chandlerfer, c'est lorsqu'on pense à ce Vietnam, et lorsqu'on pense surtout aux Vietnamiens, car nous les aimions, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre. C'est un peuple admirable. Un peuple qu'on connaît mal en France, d'ailleurs.
Oui.
Parce qu'on a dit trop de choses.
Oui, c'est-à-dire, le peuple est noyé sous le combat qu'il mène. C'est bien dans un sens, si vous voulez, parce que le combat qu'il mène actuellement est quelque chose d'assez fantastique. Mais enfin, je veux dire, le peuple est dessous aussi, il est fascinant. Hein. C'est un beau peuple.
Pierre Chandlerfer, pour ceux qui prendraient l'émission en route et pour qu'on ne croit pas que c'est les retrouvailles de deux anciens combattants, je rappelle que vous êtes le cinéaste qui a réalisé la 317e section, qui a réalisé pour la télévision la section Anderson et qui vient de publier chez Grasset L'Adieu au roi, votre premier vrai roman. Pierre Chandlerfer, donc, tous ces films parlent de la guerre. La guerre, toujours la guerre, ça colle à votre peau.
Oui, quand on dit la guerre, alors on dit la paix. Alors quand on parle de la guerre, on imagine la paix comme... c'est comme le grand bonheur, comme le soleil, les plages, les jeunes filles en fleurs, et en fait... Pour moi, dans mes livres et dans mon livre et dans les films, la guerre est une aggravation, si vous voulez, dramatique. Mais la paix elle-même, la vie normale, est quelque chose de cruel, de dur aussi, si vous voulez. Je crois que la guerre est une accélération, en fait, de la vie.
Normale. Dans quelle situation avez-vous rencontré de vrais hommes? À la guerre ou dans la paix?
J'en ai rencontré partout. Je veux dire, les vrais hommes, ça, il est quelquefois plus évident. Je veux dire, ça semble plus évident à la guerre, mais c'est pour des choses souvent plus simples, si vous voulez. Et les grands hommes profonds, c'est dans la paix que ça se voit, si vous voulez. Superficiellement,
c'est sympathique.
Superficiellement, à la guerre, on se dit ça y est, parce qu'il est plus fort, parce qu'il est resté un peu plus longtemps debout, mais ça, c'est rien. On y croit à 20 ans, mais à 40 ans, on sait que c'est pas ça, le courage et le travail, et la gloire, même ce qu'on appelle la vraie gloire, c'est-à-dire l'homme, la vraie vie d'homme, c'est dans la paix que ça
on ne rencontre plus de gens qui rêvent. C'est
Je crois que les gens rêvent de plus en plus, les gens ont besoin de plus en plus de rêver. Je crois que. Si vous voulez, les mouvements de mai, c'est un grand rêve. Hein. C'est un grand rêve fabuleux qui devait réussir. Quoi. Je crois que si les gens rêvent, vous savez.
Vous avez été pris par les événements de mai?
Ah, j'ai trouvé ça... C'était très intéressant, si vous voulez. J'ai été plus pris, d'ailleurs, à mes yeux, par le fond que par la forme. Je crois que les gens ont du mal à s'exprimer, que souvent, dans les expressions des gens à ces sujets n'ont pas pu dire le vrai moteur, mais je crois que c'est essentiel. Je crois que c'était une espèce de... D'abord, c'est un refus d'un monde assez redoutable qui se présente à nous, d'une société assez redoutable qui se présente à nous, et qu'elle soit d'ici ou de l'autre côté, hein, je sais pas. Et où l'homme disparaît, je crois que c'est une... Et puis c'est une interrogation sur le sens de la vie, hein.
ou plutôt le fruit d'une interrogation sur le sens de la vie. Je crois que c'est... Je crois que c'est presque un problème métaphysique. Je veux dire, c'est une angoisse métaphysique, le mouvement de veille. Ça, c'est admirable.
Pierre Chandlerfer, vous n'êtes pas vieux, vous avez 40 ans, c'est le bel âge. Mais est-ce que vous vous sentez proche des jeunes d'aujourd'hui, de ceux qui ont 20 ans aujourd'hui?
Il y en a beaucoup qui m'échappent. Hein, je veux dire, je n'en connais pas énormément. Il y en a beaucoup qui m'échappent. Et au moment où je crois qu'ils m'échappent, tout à coup, je m'aperçois aussi que je les retrouve sur d'autres choses. Et qu'en fait, c'est souvent une question de vocabulaire. Hein. Ils ne veulent plus utiliser notre vocabulaire et nous n'avons pas leur vocabulaire. Et je crois que là encore, on débouche sur le problème de l'expression ou si vous voulez, ce qu'on a, qui est à la mode maintenant, de l'incommunicabilité. Mais l'incommunicabilité, c'est la preuve de l'âme. Je crois que ne communiquent bien que deux machines IBM ou peut-être deux fourmis. Mais deux hommes, Dieu soit loué, ne peuvent pas. Et c'est ça qui est intéressant.
Pierre Chandlerfer, c'est parce que vous êtes bien vivant que vous êtes tellement poursuivi par la mort.
Ah, je suis bien vivant. C'est vrai. C'est vrai.
Non, vous savez vivre. Vous aimez vivre.
Ah oui, oui. Ah oui. Je suis, oui, mais je ne sais pas pourquoi je suis préoccupé par... Je ne suis pas préoccupé, je veux dire, de la mort elle-même. La mort elle-même, je crois que, suivant les circonstances, je crois qu'on peut la regarder en face. Je crois que on est plutôt plus préoccupé par Je vais employer un mot un peu banal, là encore, l'expression, je n'ai pas le temps, je ne trouve pas, par les démons intérieurs, je crois que c'est ça, si vous voulez. Qui suis-je toujours, cette espèce de qui suis-je et pourquoi
dans ce monde, dans les livres, c'est la chanson de Guy Béard, qui suis-je, qui puis-je.
Oui, c'est ça, je veux dire, alors là, c'est, mais en fait, c'est ça, quoi, c'est quand même alors, il y a une espèce d'interrogation. Alors, la mort là-dedans, elle est inéluctable, ça fait partie du cycle, on le sait depuis le premier jour.
Puis les hommes ont plus peur d'eux-mêmes que de la mort.
Moi, je crois.
Vous savez, Pierre Chandlerfer, pendant toute cette émission, nous recevons de nombreux coups de téléphone. Et à l'instant, là, un auditeur demande si on peut évoquer la figure du photographe Capa.
Oui.
Je dois dire, c'est encore un...
C'est un grand photographe. Moi, je ne l'ai pas connu.
Un grand souvenir.
Il est mort en Indochine, mais je l'ai
très bien connu.
J'étais prisonnier à ce moment-là. Mais... C'est un grand cinéaste russe qui visitait les camps prisonniers qui m'a appris sa mort. Ce grand cinéaste russe s'appelle Carmen. C'est un des grands documentaristes du monde. Et il faisait à ce moment-là un film sur le Viet Minh, sur l'avenir au Vietnam. Et il filmait les prisonniers. Et comme il a appris qu'il y avait un cinéaste dans le lot des prisonniers, il a demandé à me parler pendant quelques temps. Je suis sorti avec lui pendant 3 jours dans une petite maison. Et un jour, il m'a annoncé la mort de Capa, qu'il avait très bien connu, lui, pendant la guerre d'Espagne, et pour lequel il avait une grande admiration. C'était un de ses amis.
De toute manière, je crois que si nous parlons de Capa, nous pourrions également parler d'autres photographes qui étaient peut-être un peu moins connus, mais je pense par exemple à Martynov.
Martynov que tout le monde oublie et
à Dien Bien Phu.
Perrault aussi, vous savez, qui était un très grand photographe.
Puis il y a eu Lebon,
c'est un cinéaste, Lebon. Oui. Et Millet, vous savez, c'était un grand monsieur. C'est un grand monsieur, parce qu'il est encore vivant, enfin, il est vivant, c'est un très grand monsieur.
Je suis heureux de reparler de tout cela, parce que c'était des hommes. Oui. C'était des hommes dans un contexte donné, dans une situation donnée, dans une condition grave. Oui. Et je trouve que, la plupart du temps, on ne rencontre pas des personnages comme cela.
Oui, c'était des gens de qualité, voilà. ça. Oui. Et ça, c'est très rare.
Parce les que derniers les aventuriers, mais avec
un grand tas. C'était loin des surhommes, si vous voulez,
parce que
les surhommes n'existent pas, et c'est quelquefois très redoutable, ceux qui se croient. Non, c'était des gens de qualité. Et qui faisaient honnêtement et durement leur métier comme cela doit se faire. Et je trouve ça...
Pierre Chandlerfer, vous voyez, il y a à peu près 7 mois, j'ai commencé cette émission, nous avons rarement parlé de la guerre. Mais je crois qu'il est important d'en parler, car c'est lorsqu'on parle de la guerre qu'on s'aperçoit que c'est bon de vivre en paix. Pierre Chandlerfer, il y aura peut-être bientôt un choix à faire, cinéaste ou écrivain.
Ah non, je ne veux pas choisir. Non, je veux continuer des deux côtés.
C'est possible?
Je le pense. Vous savez, chaque fois que je termine un film, je dis je ne peux plus, j'arrête ce dernier et puis ça reprend. Hein, j'ai envie d'en faire d'autres. Et chaque fois que je termine un livre, je dis je n'écrirai plus jamais, c'est fini, c'est trop dur et trop solitaire. Maintenant, je sais que j'irai écrire un autre livre.
Pierre Chandlerfer, depuis que vous avez réussi, est-ce que vous avez l'impression qu'on vous voit avec d'autres yeux?
Je sais pas, non, ça. Je sais pas comment on voit. Je sais pas si on voit. Non, vous savez, tout ça, c'est très...
Tous les remous actuellement, enfin, des remous qui sont agréables.
Oui, mais vous savez, non, il faut...
Ils vous attirent?
Ils font peur, moi, ils font peur.
J'ai peur des remous. Je veux dire, j'aime bien suivre mon bonhomme de chemin et je suis très content de voir que je fais un peu de résonance, si vous voulez, que ça ne tombe pas comme un caillou au fond d'un puits, mais écoutez, je ne sais pas, vous savez, tout ça, ça m'échappe. Et...
Bon, les deux...
Ce que je voulais dire, tout d'un coup, devient grandi démesurément, rétréci misérablement, et je ne sais plus, j'aime pas, non, j'ai peur un peu de tout ça.
Les deux grandes dates, c'est 317e section, l'adieu au roi. Pour vous.
Oui.
En fait, non, dans votre carrière, oui, je ne parle pas de votre vie.
Non, la section Anderson, certainement, a pesé lourd aussi. C'est elle qui m'a d'ailleurs permis de faire la Lue au Roi, et ensuite, elle a pesé lourd, parce que, si vous voulez, il y a trois choses. Il y a l'auteur. Un auteur, c'est Dieu. Il décide, celui-là va vivre, celui-là va mourir, il fait le destin des gens. Hein. Des gens dont il parle. Hein. Le réalisateur d'un film, c'est un roi de droit divin. C'est lui qui attend qu'il pleuve pour que la bataille ait lieu. C'est lui qui tue d'une certaine manière celui que Dieu a décidé de tuer. Vous voyez, je veux dire, c'est le... Et alors, le documentariste, c'est un esclave. Il marche derrière les événements et en ramasse, courbé vers le sol, il en ramasse les débris, si vous voulez, ce qui peut émerger. Alors, j'ai alternativement passé de... J'étais roi, je viens d'être Dieu... Non, c'est ridicule comme ça, mais c'est vrai, je veux dire, dans un sens...
Faudra vous poser, hein, faire ça à leur frère.
On fait son petit... Non, mais je veux dire... oui, et toute chose étant égale, j'ai été esclave, oui, j'ai fait les trois.
Mais vous travaillez sur un film en ce moment.
Oui, je travaille sur un livre absolument admirable, alors qui est à mes yeux, un des chefs-d'œuvre avec ce livre de Bulgakov dont je vous parlais, là, Le Maître Marguerite, et bien l'autre chef-d'œuvre, un des autres chefs-d'œuvre, il y a quelques autres comme ça, c'est Le Désert des Tartares de Lino Buzzati. Et c'est Jacques Perrin, producteur de Z, qui était dans la 317e section, le lieutenant, qui, il y a déjà 3 ans, m'a demandé de le faire. À ce moment-là, j'avais déjà l'adieu au roi un peu en tête, si vous voulez. Je n'ai pas voulu le faire. Maintenant, je suis libre, alors il m'a redemandé de le faire. Et je fais ça avec lui. Et ça m'intéresse beaucoup. Je veux dire, ça, c'est en résonance, si vous voulez, avec les grandes choses qui m'intéressent.
Pour vous, Pierre Chandlerfer, qu'est-ce que c'est la vraie gloire ?
La vraie gloire, c'est de pouvoir le dernier soir de sa vie se retourner et regarder ce qu'on a fait et ne pas mourir de honte.
Pierre Chandlerfer, est-ce que vous pensez aux États-Unis, aux problèmes noirs ? Est-ce que vous pensez faire un film un jour ?
J'avais à un moment donné l'intention d'en faire comme une espèce de suite, si vous voulez, de la 317e section. Non, de la section Anderson. Oui, c'est un problème. Je pense que les Américains vont être acculés à trouver une bonne solution. Sans ça, c'est une des amorces de la fin du monde. Je veux dire, c'est un de ces problèmes fantastiques qui se posent au XXe siècle. Je pense que les hommes vont trouver une solution bonne. Mais c'est difficile. C'est très difficile. Vous savez, Anderson, le lieutenant Anderson, qui est devenu mon ami. Je l'ai revu après ça aux États-Unis quand il est rentré du Vietnam. J'ai été reçu chez lui, dans sa maison, chez ses parents. Son père travaille dans le Santa Fe Railroad à Topeka, Kansas, une toute petite ville, à mi-chemin des côtes est et ouest. Et j'ai passé 8 jours chez lui et on a un peu commencé à parler un peu de toutes ces choses-là. Et c'est une méconnaissance, il m'a dit, lui. Je ne connaissais pas les Blancs et les Blancs ne me connaissaient pas, ne nous connaissent pas.
C'est grave.
Oui, et alors, il a dit, naturellement, pendant mon commandement en Indochine, j'ai eu l'impression que certains Blancs nous connaissaient un peu mieux, et moi j'ai eu l'impression de connaître un peu mieux certains Blancs.
Pierre Chandlerfer, nous avons passé 60 minutes ensemble. J'ai dit au début de cette émission que vous aviez 40 ans et que c'était des années qui comptaient double. Vous êtes content quand même de les avoir vécues?
Ah oui.
Pierre Chandlerfer, je rappelle que votre livre « L'adieu au roi » vient d'être publié chez Grasset, sort aujourd'hui en librairie. Je ne parle pas ni du Goncourt, ni du Fémina, ni de l'Interallié. Il sera toujours temps d'en parler. Merci Pierre Chandlerfer.